بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام. Ce soir, alhamdoulillah, on a complété le 13e juz, Wama Ubarri'u Nafsi. Et dans deux jours, on sera à la moitié du Coran. Déjà à la moitié du Coran. Le mois de Ramadan a commencé il y a quelques jours. Et après demain, on va compléter Subhanalladhi Asra bi'Abdih. Et on va aller dans la partie qui descend, là, du 16e, 17e jusqu'au 20e. Et ça va aller très vite. Qu'Allah Rabbul Izza nous donne la possibilité de continuer à apprécier la lecture du Coran. Mes chers frères, on a dépassé le 10e juz, vous vous rappelez, on a parlé de la fameuse campagne de Badr, avec des explications et des éclaircissements concernant l'objectif de cette expédition. Dans le 11e juz, ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim, notre collègue Imam Sajid vous a fait le tafsir qui me rappelle quel était le sujet de Ya'tadhiruna ilaykum. Pour ceux qui ont été attentifs avant-hier, il s'agit des munafiqin, des hypocrites. Hein? Alors
il y avait un sahaba, le professeur Hassan est parti en expédition.
Quel était l'endroit de l'expédition, le lieu de l'expédition? Tabouk. Bataille de Tabouk. L'expédition la plus lointaine. L'expédition la plus lointaine, en pleine chaleur, et en plus la période de la récolte des dattes. Combien de fois par an il y a une récolte de dattes? Une seule. C'est comme litchi, c'est comme mangue, comme n'importe quel fruit. Il y a une seule période, une saison. C'était en été où les dattes sortent. Et là, il faut être présent pour les cueillir. Il y a le travail à faire. Et beaucoup de sahaba vivaient de ça. Et quand le prophète alayhi salat wa sallam explique quel est le danger par rapport aux Romains pour la bataille de Tabouk, il fallait absolument être présent. Et donc, il y avait des munafiqins, des hypocrites qui n'ont pas pris part à cette bataille. Au retour du prophète alayhi salat wa salam, ils étaient venus s'excuser. Et là, Allah Azza wa Jal, dans le début de ce 11e juz, Allah Azza wa Jal refute donc les excuses de ces munafiqins par les termes. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dit, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informé de vos nouvelles. Allah Rabbul Izzah avait mis dans le cœur du prophète alayhi salat wa salam que ce que ces personnes vont dire, ce sont des mensonges. Et Allah verra votre œuvre ainsi que son messager. Ça, c'est une réalité pour tout le monde. Être conscient qu'Allah verra nos actions. Nos actions seront présentées à lui le jour de Qiyam, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et Allah il vous informera de ce que vous faisiez. Le munafiq, par excellence, est un menteur. C'est la personne dont le cœur n'est pas rempli d'amour pour Allah, qui donne une apparence de mu'min. Mais le jour des comptes, tout sera clair et éclairci auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous donne une idée de ces personnes. Ça, c'était un phénomène nouveau à Madina, qui n'existait pas à Mecca, les hypocrites, les munafiqines. Ça a causé énormément de problèmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'ensemble des musulmans. Et quelques versets plus tard, Allah Azza wa Jal va parler d'une autre catégorie de personnes qui ont causé quelques difficultés également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les bédouins. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a eu comme difficulté dans sa mission les Quraysh, qui n'ont jamais laissé depuis qu'il est devenu prophète jusqu'à ce qu'il récupère Makkatul Mukarrama. Il y a eu les différentes tribus qu'il avait trahies au sein même de Madina, et il y avait parmi les musulmans. C'est-à-dire là, c'est comme si l'ennemi se rapproche de plus en plus. On parle des Quraysh, c'est quand même assez éloigné. On parle des tribus qui était dans Madina, c'est 7 dans la ville, mais 3 quartiers différents. Et ensuite, on parle des hypocrites, des mu'mines, des gens, des arabes, des musulmans, et qui avaient affirmé la ilaha illallah, mais de leur cœur, ils ne croyaient pas. Et c'était ces munafiqines, entre autres, qui étaient à l'origine de la fameuse calomnie contre Aïcha, radiallahu anha, qui avait beaucoup affecté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans le 12e juz, qu'est-ce que vous avez vu dans le 12e juz? Wama min dabbatin fil ardi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? La nourriture. Alors ça, alhamdulillah, tout le monde a retenu. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'est comme Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Ibn Kathir, rahimahullah, explique à travers ce verset qu'Allah Azza wa Jal rappelle que c'est lui le Khaliq, c'est lui le Créateur, et c'est lui le Raziq, c'est lui qui nourrit, qui donne la subsistance. Et quand Allah Azza wa Jal parle de toute créature, Allah ne s'est pas limité au monde des humains. Non, Allah Rabbul Izzah parle au Mamin Dabbat, tout animal, tout ce qu'Allah a créé, mais c'est Allah qui les nourrit. Sariruha wa kabiruha, bahriyuha wa barriyuha. Que ce soit des animaux terrestres ou marins, on parle des poissons, ainsi de suite, grands ou petits, du plus grand, des plus grands mammifères au plus petit. Quand on parle des grands mammifères, on comprend, on a une idée, mais quand on parle de ce qui est extrêmement petit, ça devient plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup plus de petites créatures que de grandes créatures, oui ou non? On est capable de compter, il reste combien de baleines bleues, combien d'éléphants en Afrique, ça on peut compter. Mais si on vous dit il y a combien de qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Et oui, il y a combien de fourmis à l'île de la Réunion? Qui c'est qui va les compter ça? Hein? Une dizaine, d'accord. Une dizaine peut-être par centimètre carré. Mais, subhanallah, ce qui est le plus impressionnant, c'est de reconnaître la grandeur d'Allah dans l'infiniment petit. Dans la petitesse de certaines créatures, ces fourmis. Et voyez la beauté du verset. C'est pas uniquement qu'Allah leur accorde le risque, la subsistance. C'est qu'Allah sait également mustaqarraha wa mustaudaaha. Qu'est-ce que Ibn Kathir, rahimahullah, dit à propos de ça? Ya'lamu ayna muntaha siruha fil ard wa ayna ta'u ilayh. Dans quelle direction ces animaux ils s'en vont? Et là, on pense à ces oies sauvages qui migrent d'un continent à l'autre selon certaines saisons, ben tout ça c'est par ordre d'Allah, et Allah est au courant du mouvement de chacune des créatures. Aïna tatanaqqal, où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle reste, où ces créatures résident, ça Allah seul le sait. On aurait pu penser à l'échelle humaine, oui, telle personne habite tel endroit dans telle région, oui, mais là on parle des animaux, et qu'on parle des animaux déjà c'est impressionnant, mais qu'on parle même des insectes, la petite fourmi en faisant le 16e raka'at tarawih, il y a une fourmi qui est passée devant moi. Il est toujours là. Ahlan. On a fait attention, ne l'écrase pas, chef. Moi, je fais attention, vous êtes en train de l'écraser avec votre doigt. D'accord. On a fait attention, c'est pas là, c'était plus gros. Lui, c'est un tout petit, il est rouge. On a fait attention de ne pas l'écraser. Il est où maintenant? Où est cette fourmi? On ne sait pas. Et Allah, Rabbul Izzah, sait. Mustaqarraha ou mustaudaaha. D'où elle venait? Où est-ce qu'elle allait? Et ces animaux, ces insectes-là, ça ne se promène pas comme nous, ça. C'est pas comme nous, on va faire des courses, on va marcher sur le barachois. S'ils sortent de leur terrier ou de leur nid ou peu importe, c'est pour un but précis, à la recherche de leur risque ou autre chose. Et Allah Azza wa Jal sait pertinemment où ces créatures sont, où ils vont, quand est-ce qu'ils retournent et quel est leur risque, quelle est leur subsistance. Imaginez si c'était à nous de nourrir les animaux. Dans un zoo, oui. Mais si on dit à quelqu'un, il faut nourrir tous les termites qu'il y a autour de la masjid. Il y en a. Nourrissez tous les insectes, tous les nids de guêpes au-dessus de notre tête, qu'on fait Mahamat, là, d'accord? Tout ça, qui c'est qui nourrit? C'est Allah Azza wa Jal qui nourrit. Donc, c'est une prise de conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un rappel pour la confiance en Allah. Ne perds jamais confiance en Allah. Tu te fais du souci pour tes enfants, tu te fais des soucis pour telle chose. Oui, un bon papa, une bonne maman, réfléchit, essaie de prévoir et de chercher ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Mais ne pense surtout pas que c'est toi qui fais leur avenir. Ne pense surtout pas que tout repose sur tes épaules. Allah, yatakaffalu birizqihim. Allah est garant de leur risque, de leur subsistance, et bien avant notre création, avant notre venue sur la terre, Allah en était déjà garant. Donc quand tu n'existais pas, Allah nourrissait déjà ses créatures, et cela jusqu'à la fin des temps, comme Allah l'a annoncé dans Oma Min Daba, et dans d'autres versets qui reprennent les mêmes termes. Et wa mustawda'a sulam ni kathir, haythu tamut, où ces créatures vont mourir. Pour les êtres humains, wa ma tadri nafsum bi ayy ardin, Tamut, Allah sait où chaque être humain meurt. Déjà, ça nous impressionne. Quand il y a une personne qui est en voyage et qui meurt ailleurs, ben, très souvent on en parle. Hein, il y avait quelqu'un qui était venu à la Réunion il y a un an ou deux ans du Canada. Un alim pour collecter un peu d'argent pour une grande école qu'ils sont en train de construire au Canada. Il est dans Ramadan, je crois, l'année dernière, il y a deux ans, il est mort ici, à la Réunion. Et là, les gens se disent, subhanallah, il sort de, je sais pas, ça fait combien de kilomètres le Canada? Ça fait très loin, ça doit faire au moins 12 000, hein. C'est plus loin que la France. 14 000 kilomètres. D'où il vient, subhanallah, dans son taqdir, c'est écrit qu'il soit enterré dans la terre de Saint-Denis de la Réunion. Donc, pour un être humain, déjà, c'est, ça nous parle, ça nous impressionne. Mais là, on parle même des hacharats, même des insectes, des animaux. Tout est prédestiné par Allah Azza wa Jal. Quand tu te chausses en sortant de la masjid et qu'en marchant, on tue combien d'insectes, combien de fourmis? Tout ça, c'est écrit dans le taqdir. C'est-à-dire que si tu commences à penser au cas par cas, coco, il bloque. C'est uniquement le Seigneur des mondes qui est capable de gérer tout cela en même temps et de façon parfaite. Similaire, oui, et de façon parfaite. C'est pour ça qu'il y a des fois où, quand on voit des gens qui se radicalisent un petit peu dans, ça fait peur, hein, qui se radicalisent un peu dans l'écologie ou dans le bio, dans la défense des animaux et tout ça. Moi, je me dis que, quand ils disent que oui, telle espèce est en train de disparaître et tout, c'est hâte. Si on peut faire quelque chose pour ces espèces, oui, on aime les animaux, makhloukat et tout, mais c'est Allah qui décide ça. C'est dans les mains d'Allah. C'est pas à toi, être humain, de consacrer ta vie pour sauver une race d'animaux, pour les nourrir. Le risque est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Le risque est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Leur vie, leur mort est dans les mains d'Allah. Sinon, on peut aider, on aide. Il y a un homme, vous savez l'histoire d'un homme parmi les Bani Israël qui était descendu dans un puits avec sa bottine pour prendre un peu d'eau pour un chien qui mourait de soif. Allah lui a accordé le Jannah par ce geste. Ça veut dire qu'on doit aimer les makhlouqats d'Allah. Mais n'en fais pas une vie non plus. Ne pense surtout pas que leur vie dépend de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la volonté d'Allah. Mais si tu peux aider une créature d'Allah, c'est une source de récompense pour toi. Et aujourd'hui, dans le moment Ubarri'u Nafsi, on parle de quelle sourate? Quelle sourate? Yusuf, la plus belle des histoires. Et résumer la plus belle des histoires en deux lignes, en deux lignes, c'est pas possible. Sauf que de wama ubarri'u nafsi. Ce qui serait intéressant, comme on s'est fixé de faire que les deux premières lignes de chaque juz, où sommes-nous dans, à quelle étape de l'histoire de Yusuf alayhi salam? Nous sommes donc à quelle étape de l'histoire de Yusuf alayhi salam? On est dans ce moment de volume, de pression, où Yusuf alayhi salam est en prison. Et pourquoi il est en prison? Parce qu'on l'a accusé, bien sûr, à tort, qu'il convoitait l'épouse du roi. Inna kaida kunna azim. D'accord? Au contraire, cette femme qui était éprise d'amour pour Yusuf, qui avait une beauté extraordinaire, elle, pour ne pas être humiliée auprès de son mari, elle a fait croire que c'est Yusuf alayhi salam qui lui avait fait des propositions et qu'elle a été victime, na'oudhu billah, et le roi, bien sûr, a cru à la version de son épouse et Yusuf alayhi salam a été jeté en prison. C'est incroyable comment Yusuf alayhi salam était mazloum dans ce dunya. Le nombre de fois où Yusuf alayhi salam a été opprimé, c'est une leçon pour chaque personne qui, dans sa vie, vit ou connaît une situation d'injustice. Personne ne sera aussi opprimé que Nabiullah Yusuf alayhi salam. Mais analysons la noble réaction de Yusuf alayhi salam dans toutes ces situations d'injustice. Comment est-ce que ses frères étaient jaloux de lui? Comment est-ce qu'ils l'ont abandonné dans la forêt? Comment est-ce qu'ils ont menti auprès du papa qui s'appelait Yaqub alayhi salam? Comment est-ce que ensuite Allah a décrété qu'il a été, et à chaque situation de dhulm, il y a eu fatah. Zulm, fatah. Fatah, c'est une ouverture, l'aide d'Allah. Nusra, on va dire. Zulm, nusra. Zulm, nusra. Ça nous fait comprendre que parfois Allah Azza wa Jal crée des situations qui nous paraissent être défavorables, injustes, mais c'est pour t'accorder quelque chose de bien. Si Yusuf alayhi salam n'avait pas été abandonné dans ce puits par ses frères, il n'aurait pas été récupéré par cette caravane. Et pour être vendu comme esclave. Une situation d'injustice. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait pas au palais du roi. S'il n'avait pas été victime de ce macre, de ce plan machiavélique et diabolique de cette femme, il n'aurait pas eu cette position par la suite. Alors, où est-ce qu'on est dans cette histoire-là? Dans la prison. Yusuf est en prison. Sauf que en prison, bon, il y a une petite épreuve. Quand il y avait deux personnes avec lui qui avaient fait des rêves, Yusuf alayhi salam leur avait expliqué le sens des rêves. Et à un des deux, Yusuf alayhi salam avait dit « Dhkurni inda rabbik ». Parle-le-moi auprès du roi. Et selon certains Mufassirin, il a eu d'une certaine façon une confiance sur cette créature. Et Allah a fait que cette personne a complètement oublié. Ce n'est pas par méchanceté. Allah a décrété que cette personne oublie de parler de Yusuf alayhi salam. D'une certaine façon, il voulait un shafa'a, que cette personne intéressait de près du roi, et il ne l'a pas fait. Et Yusuf alayhi salam est resté en prison. Maintenant, le roi, on va aller un peu vite, puisque l'histoire est longue, le but c'est pas de raconter l'histoire de Yusuf alayhi salam, mais « Wama ubari'u nafsi » cette phrase. Le roi fait un rêve. Il rêve 7 vaches maigres qui mangent 7 vaches grasses. Il faut le dire, c'est 7 vaches grasses. D'accord ? Et des épis. On connaît l'histoire. Et donc, le roi a été interpellé par ce rêve. Il demande à sa cour, à les gens en qui il a confiance, quelle interprétation donnez-vous à ce rêve ? Et ils étaient incapables de répondre à la demande du roi. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de sens à ce rêve, il n'y a pas d'interprétation possible. Et donc, le roi a cherché qui peut donner un sens à ce rêve. Et là, il y avait cette personne qui était avec Yusuf alayhi salam, qui était sorti de prison. Là, il s'est rappelé à cet instant de son compagnon de prison, Yusuf, qui avait ce don de ta'wil ru'ya, d'interpréter les rêves. As-Sa'di, rahimahullah, rappelle que voilà une sagesse d'Allah Azza wa Jal, ha'adha min lutfillahi. C'est quoi lutf qu'on dit Allah est latif? Allah est bienveillant. Ça veut dire quoi être bienveillant? Quand je dis, là on parle des makhlouqat pour avoir une idée de cette qualité. Si on dit que ce père, ce papa est bienveillant envers son enfant. C'est-à-dire qu'il va prendre les meilleures décisions pour son fils. Même si l'enfant ne perçoit pas cette décision comme étant quelque chose de favorable pour lui, mais il y a un bien parce que le papa, il a une vision que l'enfant n'a pas. L'enfant veut absolument manger tel truc, des sucreries, des bonbons, ainsi de suite. Le papa dit non, c'est pas une bonne chose pour toi. Et l'enfant pense que s'il a un méchant papa, et Lot, son papa, il lui donne tout le temps des bonbons. Mais Lot, hein, quel état de ses dents, c'est un exemple pour qu'on comprenne quand on dit la bienveillance, c'est quoi? Allah Azza wa Jal est bienveillant envers ses serviteurs. Donc, toute situation difficile, difficilement acceptable que nous vivons, ben, il y a un khair et un bien dedans. Et donc, As-Sa'di dit, « وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِيُوسُفْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ si ces personnes-là, la cour du roi, les proches du roi, s'ils avaient donné l'interprétation, ben le roi se serait suffi de cette interprétation. S'ils avaient essayé de dire quelque chose, pour essayer de marquer le coup, donner l'interprétation, il est possible que le roi se serait suffi de cette interprétation. Mais ils ont dit que ça n'a pas de sens et personne ne pourra donner un sens à ce rêve. Donc, la curiosité du roi est restée intacte. Il continue à chercher. Et quand vous êtes dans une situation où personne autour de vous ne peut vous aider et que l'aide vient de quelqu'un de l'extérieur, automatiquement, votre regard va se porter sur cette personne. Et cette personne, ben, vous allez voir cette qualité que vous n'avez pas avec toutes les personnes qui vous sont proches. Donc, cette personne aura une importance à vos yeux. Vous suivez la logique? Donc, de cette façon, personne, les gens les plus intelligents de son royaume, n'avaient aucune réponse. Et là, un de ses serviteurs dit, « وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنْ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ » Moi, je vais vous donner l'interprétation. Il a demandé à aller voir Yusuf alayhi salam qui était en prison. Donc, le roi était curieux de savoir quelle réponse cet esclave va lui apporter. Lorsque cette personne arrive en prison, il rencontre Yusuf alayhi salam. As-Sa'di rahimahullah dit que Yusuf alayhi salam ne lui a fait aucune reproche. Quel reproche il aurait pu faire? Tu m'as oublié. En prison, tu étais proche, on était proche. Maintenant que tu es libre, tu es un khadim, tu es proche du roi, tu as des bienfaits. Tu m'as complètement oublié alors que je t'avais dit « Udhkurni inda rabbi ». Yusuf alayhi salam n'a fait aucune reproche. C'était pas quelqu'un de rancunier. Au contraire. Et il était là pour aider. Allah lui a donné un don, l'interprétation des rêves. Il le met au service de ceux qui le sollicitent. Il en a même fait une da'wah, une prêche en prison. Ça, c'est d'autres détails de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc, il écoute cette personne qui lui explique le rêve du roi. Et là, il va donner explication. C'était un peu long. Comment est-ce qu'il fallait faire la récolte, consommer, mettre de côté, ainsi de suite. Et donc, le serviteur, l'esclave, retourne voir le roi et lui informe de cette interprétation qui paraissait totalement cohérente et qui correspondait parfaitement à son rêve. Et le roi a compris que cette interprétation-là ne venait pas de quelqu'un d'ordinaire. C'était vraiment quelqu'un de spécial. Et là, il a demandé à cette personne, « وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي » Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Yusuf dit, « Retourne auprès de ton maître. » Et là, Yusuf salam, il n'a pas voulu sortir de prison. Le roi dit, « Amenez-le. J'aimerais le rencontrer, cette personne qui fait de telles interprétations. » Yusuf salam n'a pas accepté. Il dit, « Va demander d'abord au roi quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. » Et là, le roi va dire, « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Yusuf ?» Quel était l'objectif? Quel était le but de Yusuf alayhi salam? Qu'il ne voulait pas être libéré par rapport à ses compétences, par rapport à son intelligence, par rapport au don qu'Allah lui a donné. Il voulait que le roi reconnaisse son innocence. Vous voyez l'intégrité de Yusuf alayhi salam. Le tout, ce n'est pas d'être libre, mais que les gens aient continuent à avoir de mauvaises pensées. Il préfère être en prison, mais qu'il n'y ait aucune accusation, que personne ne lui reproche quoi que ce soit. Il dit que je sors de prison à condition que le roi mène son enquête auprès de ces femmes-là et auprès de sa chère épouse. Et là, l'épouse et ces femmes ont dit que Yusuf Alayhi c'est quelqu'un d'innocent. Ma alimna alayhi min sou. On n'a jamais connu de mal. Il n'y a rien eu de mal de la part de cet homme, sens du verset. Et là, l'épouse du roi a enfin avoué. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين et la femme de l'Aziz dit maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Là, la vérité a éclaté. Là, le roi a compris que son jugement précipité sur Yusuf alayhi salam, parce qu'il a préféré écouter son épouse, c'était un jugement erroné, injuste, et là il a fait libérer Yusuf alayhi salam pour son innocence, et il va le récompenser, d'une certaine façon le compenser pour cette injustice, et le récompenser pour la réponse qu'il lui a donnée par rapport à son rêve. Et là, l'épouse du roi va dire, et là on est au verset وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي je ne m'innocente cependant pas car l'âme est très incitatrice au mal à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Donc l'épouse du roi, elle rappelle que l'homme a un penchant, l'être humain, a un penchant vers le mal. Inna nafsa la ammaratum bissou, l'âme est très incitatrice au mal. As-Sa'di rahimahullah explique, li kathirati l'amri li sahibiha bissou, le nafs, l'ego. L'ego a tendance à pousser l'homme à accomplir le mal. Ay al-fahisha wa sa'iri dhunub. Quel genre de mal? Premièrement, l'adultère. Le zina, c'est la grande faiblesse de l'être humain, mais d'une façon générale, ça irrite de nos. فَإِنَّهَا مَرْكَبُ الشَّيْطَانِ وَمِنْهَا يَدْخُلُ عَلَى الْإِنسَانِ. On pourrait dire qu'il y a deux tentations, deux sources du mal. Il y a shaytan, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ, et il y a nafs qui est ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, sauf les personnes qui ont été protégées. فَنَجَّاهُ مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ. Inna Rabbi Ghafurur Rahim, ay huwa ghafurun liman tajarra'a 'ala adh-dhunub. Mais malgré le fait que l'homme dans sa nature, et quand dit qu'on dit inna nafsa la'ammaratun bisu, on parle de la nature de l'être humain. On parle de la nature de l'être humain. On ne parle pas de la notion de péché. Le pécheur a tendance à faire le mal. Non, il est dans la nature. Parce que Allah nous a créé comme ça. Allah nous a créé de cette façon que le nafs incite l'homme à faire le mal. Et c'est pour ça que la valeur de l'être humain auprès d'Allah Azza wa Jal est, selon la majorité des savants, supérieure à celle des malaïka, si cet homme, si cet être humain, vit dans le ta'a, de l'obéissance. Parce que l'ange, les malaïka, ils n'ont pas ce nafs ammaratum bisou. Bien au contraire, la ya'asoun Allah ma amarahum, de leur tabi'a, dans leur nature, Allah les a créés de telle façon que les anges obéissent à tous les ordres d'Allah et jamais ne désobéissent à Allah Azza wa Jal. Alors que l'être humain, dans la façon qu'Allah nous a créés, il y a cette part de mal qui nous pousse à accomplir les péchés. Qui me donne un exemple avant que je pose la question? Là, ce serait vraiment haut niveau.
Les deux anges qui enseignent la sorcellerie.
C'est pas mal, mais c'est pas le sujet. Qui me donne un exemple d'un homme dont le cœur, qui complète, a été lavé de toute tentation, de tout ce qui peut pousser l'homme à accomplir le péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'opération de la poitrine shaqqu al-sadr. Shaqqu al-sadr, l'objectif c'était d'enlever tout ce qui pousse l'homme à accomplir des péchés. Ça c'était Nabiullah. Mais nous, personne n'a subi d'opération de la poitrine. Voilà, si quelqu'un a subi, dites-moi. Ça deviendrait intéressant. Je vous ai parlé ça d'un élève qui me l'a dit. Hein. Déjà dit dans Riyadus Salihin. Je demandais une petite fille dans madrasa. Pourquoi t'es pas venu madrasa? Il a dit, papa est à l'hôpital. Il a dit, grave. Il a dit, il a subi une opération. Il a dit, Allahu Akbar, l'opération de quoi? Il a dit, il a subi une opération de la poitrine. Il a dit, Allahu Akbar, Nabiullah, le nouveau prophète, na'oudhu billah. Non, elle avait entendu ça peut-être dans un cours de sirat. En fait, son père avait peut-être au niveau du cœur ou je ne sais pas, mais elle m'a dit que son papa a subi l'opération de la poitrine. Donc, ça devenait très intéressant. À part Nabiullah, Muhammad Mustafa Ali, afdal al-salah, wa tammu al-taslim, retenons que personne n'est à l'abri des péchés. Tout comme personne n'est à l'abri des insufflations de shaytan. C'est-à-dire que la lutte entre nous et le diable et notre nafs, c'est une lutte qui est permanente. Certes, dans ce mois, cette lutte, elle est moins coriace. Parce que shaytan est éliminé. Waouh! Ah, si c'était éliminé, subhanallah! Ah, il est emprisonné. Et selon certains savants, le sens de shaytan est attaché, est emprisonné. C'est-à-dire qu'il a moins d'influence sur nous. Et le nafs, du coup, il a moins de pression sur nous. Parce que le nafs, plus on le nourrit, plus il est fort. Le nafs, comment est-ce qu'on nourrit le nafs? En l'écoutant, en l'obéissant. Tout ce que ton ego, tout ce que ton intérieur te demande de faire, et tu fais, ben le nafs il se renforce. Mais quand on est en état de jeûne, qui sait qui a le contrôle? C'est nous. On contrôle, on ne mange pas, on ne boit pas, et alhamdoulilah, par rapport aux autres péchés aussi, on se sent. C'est comme si on a plus de faculté à contrôler le regard, oui ou non? On a plus de faculté à ne pas écouter la musique. On a plus de force à contrôler notre langue. On a plus de muraqaba sur nous-mêmes, de self-control, comme on pourrait dire. C'est-à-dire le nafs, il est, je ne dis pas qu'il est HS, mais il est bien affaibli. Sa batterie est à 10%. C'est pour ça qu'on a le dessus. Donc, qu'on n'oublie jamais, qu'on reste, qu'on soit toujours vigilant. Personne n'est à l'abri. Et vous vous rappelez de ce que... Non, ce n'était pas de cette assemblée. De notre assemblée, on avait parlé de Zahid, lequel, lorsque Shaitan a été chassé du ciel, il a dit à Allah, il jure par l'honneur d'Allah que je détournerai l'être humain du droit chemin tant qu'ils seront vivants, tant que le ruh est dans leur corps, c'est-à-dire jusqu'aux dernières secondes, derniers instants de leur vie. Et Allah Azzawajal a répondu que je continuerai à leur pardonner tant qu'ils seront vivants et qu'ils me demanderont pardon. Ça nous fait prendre conscience de la clémence d'Allah, ça nous fait prendre conscience également de l'acharnement de Shaytan. Donc on a deux ennemis, le diable et un nafs qui est ammaratum bisou. Mais malgré ça, inna rabbi ghafurur rahim, ay ghafurun. Allah est pardonneur pour celui qui a succombé à ses tentations et qui est parti vers le péché. Et Allah est rahim, clément, biqabuli tawbatihi. Et wa tawfiqihi lil a'mal as-salihah. Ça c'est un peu technique, mais As-Sa'di explique que la clémence d'Allah, son pardon, on a compris. On aurait pu comprendre quand on parle de péché, Allah est ghafour. Ça, c'est très clair. Mais Allah est rahim, comment est-ce qu'ils ont traduit? Mon Seigneur essaie d'être pardonneur et très miséricordieux. Mais la miséricorde d'Allah face aux pécheurs, c'est quoi? C'est que non seulement Allah t'a pardonné, mais ça on l'a trouvé dans le sifa de ghafour. Mais en plus de pardonner, tawfiqihi lil a'mal as-salihah, Allah te ramène vers lui. Allah te permet de reprendre de l'altitude spirituelle. Allah te permet d'accomplir de nouveau des bonnes actions. Alors que nous, dans notre vie d'être humain, d'accord? Et là, je parle du cas d'un professeur, par exemple, un métier qu'on connaît. Vous avez un élève qui vous a manqué de respect. Pas cela, ça c'est des gentils. À la limite, il n'est pas, hein? Mais il est un bon marmé. Vous a manqué de respect, bon, il vient vous demander pardon. Les parents viennent, donc voilà, désolé, Fundi, Oustad et tout. Khalas, on pardonne. Mais intérieurement, il y a une distance qui va se créer entre le professeur et l'élève. C'est-à-dire que même si de la bouche on a pardonné, on l'a accepté de nouveau en classe, n'est pas expulsé, d'une certaine façon il reste quelque chose parce qu'il y a eu du mal qui a été fait. Mais Allah Rabbul Izzah, quand il pardonne, c'est pas comme ça. Et si on a une mission à confier où on doit mettre à l'honneur quelques élèves, par exemple pour un djalsa ou autre chose, ben l'élève qui a manqué de respect ou qui nous a causé du tort, on ne le mettra jamais à l'honneur parce que il a un passif. Et l'être humain n'oublie pas, de façon générale. Allah Azza wa Jal, c'est pas qu'Allah oublie bien sûr, mais c'est qu'Allah dans sa clémence pardonne et Allah t'accepte de nouveau. C'est-à-dire qu'Allah pardonne, il ne reste plus de traces et Allah ne t'en veut pas. Bien au contraire, après le pardon, Allah te donne la possibilité de reprendre ton envol. Autant de fois tu vas désobéir à Allah, si on est sincère et qu'on s'est trompé, c'est vraiment par inadvertance, par erreur qu'on a demandé pardon, Allah est capable de te prendre et de te donner la possibilité de reprendre l'envol, de te rapprocher de lui de nouveau. Et ça c'est la clémence d'Allah Azza wa Jal. Biqabuli tawbatihi. Allah est miséricordieux parce qu'il accepte tawba wa tawfiqihi lil a'mal as-salihah, et il t'accepte pour reprendre les bonnes actions. On va s'arrêter là, le reste est un peu long. Après, on pourrait juste citer en hikma, il a été en prison, d'accord? Il y a eu cette situation où le roi n'a personne pour interpréter ce rêve, et là du coup, le seul qui peut le faire, il est en prison, il l'a fait. Donc le roi est curieux et impatient de le rencontrer. Cette personne, c'est Youssouf qui demande la justice. Justice est faite. Donc le roi a deux reconnaissances maintenant. Il a une dette morale et une reconnaissance plutôt. La dette morale, c'est qu'il sait qu'il a mal agi. Il a envoyé quelqu'un en prison à tort. Et la dette morale et la reconnaissance, pardon, c'est parce que Youssouf alayhi salam lui a donné les bons conseils qui se sont avérés authentique, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour éviter la famine, pour éviter le manque de nourriture, pas pour lui, pour l'ensemble du peuple, des personnes qui étaient sous sa responsabilité. Et comme maintenant Youssouf a été opprimé, et que maintenant on a reconnu son innocence, et on a vu quelle est sa valeur, Youssouf alayhi salam, maintenant, il a le dessus d'une certaine façon. Il peut demander une faveur au roi, et il allait demander au roi, « Ij'alni ala khaza'in al-ard » de lui donner la responsabilité de gérer, comment ils ont traduit Khaza in al-Ard, de gérer le stock ou les biens de son royaume. Alors, on retrouve le verset. Et Youssouf dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Et le roi a reconnu que c'était un homme honnête, il lui a donné ce rang, ce poste qu'on peut appeler, hein, dans un langage moderne, un poste de ministre, de comment on pourrait dire ça, hein? Non, plus fort que ça. Gestion du trésor et des récoltes, et ainsi de suite. C'était un poste extrêmement important. Et Youssouf alayhi salam est devenu une personne qui était aimée de tous. Et c'est dans cette situation que par la suite, ses frères vont venir le voir pour avoir quoi ? Des provisions. Parce que là-bas, il y avait la famine. Chez le roi, pourquoi il n'y a pas eu de famine ? Parce que Youssouf alayhi salam lui a donné les directives comment gérer le stock pour qu'il n'y ait pas de manque pour toute la population. Mais là-bas, ils ne savaient pas ça. Donc, il y avait la famine et Allah crée la situation. C'est-à-dire, Allah crée les situations. Youssouf est devenu ministre, permettez-moi de le dire ça, hein, ministre de l'agriculture et de l'économie, d'un langage moderne, d'accord ? Et donc, ceux qui ont besoin de provisions ou d'emprunter dans le trésor du roi, ils doivent obligatoirement transiter par Youssouf alayhi salam. Allah crée la situation que ses frères soient obligés de venir et lui faire des demandes. Et là, il y aura la suite de l'histoire. Retenons que la sagesse d'Allah, c'est vraiment la sagesse d'Allah. Et cela n'est pas réservé aux anbiya. Cet hik, Allah qui est hakim et qui est latif, Allah qui est sage et qui est latif, qui est bienveillant, comme il l'était avec Luqman, avec Ibrahim, avec Youssouf alayhi salam, avec Muhammad sallallahu alayhi salam, Allah agit de la même façon avec nous dans les situations de notre vie. Apprenons à nous en remettre à Allah en son ilm, en sa sagesse, en sa hikma, et qu'on réalise que le dénouement est dans les mains d'Allah. Azza wa jalla ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lisez l'histoire de Youssouf alayhi salam. Ça se trouve dans plein de livres, je pense. Hein. C'est une histoire qui est magnifique, remplie de sagesse, remplie d'espoir. C'est par excellence l'histoire qui va apporter du réconfort aux opprimés et nous rappeler que, quelles que soient les difficultés, Allah Rabbul Izzah peut envoyer son aide à travers l'histoire de Yaqub alayhi salam, qui n'a jamais perdu confiance en Allah durant toutes ces années. Il a pleuré, mais il savait qu'un jour, Allah allait ramener ses enfants et ils l'ont vu. Jazakum khair.